Suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des dossiers d'intérêt pour les femmes et la jeunesse.
C'est dans la presse.
On commence par des infos concernant les droits humains. Depuis le 2 octobre 2018, les employés de maison au Maroc sont censés être protégés par une loi promulguée il y a plus de 2 ans et qui interdit également le travail des filles de moins de 18 ans. Le texte impose un contrat de travail, un salaire minimum, un jour de repos hebdomadaire, des congés annuels et prévoit des sanctions financières pour les employeurs en cas d'infraction. Mais cette loi autorise encore pour une période de 5 ans l'emploi d'adolescentes de 16 à 18 ans, ce que les défenseurs des droits humains contestent. Nous les femmes, quand une telle chose arrive, c'est nous qui avons honte, on se sent honteuse et rabaissée, a confié Nice Simon, célèbre actrice en Haïti et mère de Tabar, dénonçant la violence conjugale dont elle a été victime. Mais aujourd'hui, la honte n'est plus pour moi, la honte est pour l'agresseur, a affirmé Madame Simon, qui a décrit les coups que lui a infligés son conjoint le 1er octobre 2018. Les photos de son visage et son corps couvert d'ecchymoses avait envahi les réseaux sociaux. Mais les messages de soutien affrontent les commentaires machistes rédigés par des hommes et des femmes prenant parti contre la victime. En Haïti, 17% des femmes et 11% des hommes estiment qu'il est justifié qu'un homme batte sa partenaire selon une étude du ministère de la Santé. Violence sexiste également en France où un homme de 25 ans qui a giflé à Paris une étudiante qui avait rejeté ses remarques sexistes a été condamné à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis. Il devra également suivre un stage de sensibilisation contre les violences sexistes et le tribunal a ordonné une mise à l'épreuve de 3 ans. Sans domicile fixe, il avait déjà 9 condamnations à son casier judiciaire et a fait de la prison pour proxénétisme et des violences contre sa mère. L'outrage sexiste est un délit en France depuis le vote de la loi du 3 août. Selon l'UNESCO, 2/3 des 774 millions d'adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Parmi les 123 millions de jeunes analphabètes dans le monde, 76 millions d'entre eux sont des femmes et des filles. Ces disparités de genre persistent encore et n'ont guère évolué avec le temps. Le taux d'alphabétisation des femmes ne dépasse pas les 50% dans plus de 12 pays d'Afrique subsaharienne. Il reste même en dessous des 20%. Dans certains cas, imaginez ce que cela représente non seulement en termes de privation, de vulnérabilité, mais d'exploitation, questionne l'UNESCO.
Parole de femme.
La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie lors du sommet d'Erevan en Arménie le 12 octobre 2018. Pour une analyse sur cette féministe très populaire auprès des jeunes, Morgane Guiriec a joint à Kigali Olivier Ndou Ngiré, secrétaire d'État aux Affaires étrangères.
c'est une femme brillante, expérimentée, qui a 9 ans comme ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Louise Mushikiwabo a bien sûr exercé cette fonction dans une période où le Rwanda a connu, je dirais, des succès diplomatiques dans le monde et en Afrique. Et aujourd'hui, elle était même présidente du Conseil exécutif de l'Union africaine parce que le Rwanda dirige cette organisation pour le moment.
Comment est-ce qu'elle compte renforcer la francophonie? Quel est son programme?
Promouvoir le rayonnement de la langue française, l'échange d'expériences entre membres de la francophonie. Et puis, il y a aussi, et elle a insisté sur ce point, l'emploi des jeunes. Les jeunes francophones ne sont pas éloignés du français en tant que langue, mais qui se sont éloignés de la francophonie.
C'était Olivier Ndoungiré, secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères. Au Togo, les organisations de défense et de promotion des droits de la femme, regroupées au sein du collectif Non c'est non, ont tenu début octobre un sit-in devant le ministère de l'Action sociale à Lomé. Le collectif veut dénoncer les cas de violences sexuelles dont les Togolaises sont victimes et la publication de photos montrant la nudité des femmes et des jeunes filles sur les réseaux sociaux. Le viol, les violences sexuelles et le revenge porn, des fléaux dont nous parle notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant une tentative de viol a suscité l'émoi au Togo. Il s'agit d'une première image d'une longue série montrant la nudité des jeunes filles togolaises dans des situations peu recommandables. Le Togo se voit ainsi confronté à une nouvelle forme de violence sexuelle. Florence Potisson, porte-parole du collectif Non c'est non, un regroupement d'associations engagées contre le viol.
La question du viol a toujours été abordée effectivement au Togo, mais aujourd'hui nous remarquons une recrudescence de ce phénomène avec un autre volet, le revenge porn. Et nous voyons nos sœurs, femmes comme nous, qui sont exposées. Le phénomène est de plus en plus récurrent parce qu'il est accentué avec les terminaux que nous avons, les réseaux sociaux que nous utilisons tous les jours et peut-être de la mauvaise façon.
Pour les Togolais interrogés sur la question, ils réclament justice pour les victimes.
Il est temps que les responsables soient trouvés et véritablement punis par la loi afin d'éviter aux victimes de souffrir doublement de l'acte qui leur est arrivé. Non seulement la vie de ces victimes sont détruites d'un point de vue psychologique, mais le fait de republier ces images sur les réseaux sociaux ne permet pas à ces victimes de dépasser cette situation-là.
Il y a certaines vidéos, certaines images qui vilipendent la femme. Donc on aimerait que les autorités puissent s'en charger et que le problème soit réglé le plus vite possible. Parce que du moment où ça nuit aux droits de l'être humain, c'est plus que profond.
Nous sommes des femmes et il y a des choses que nous n'acceptons pas. Pourquoi ces images passent et personne ne réagit au Togo? Que l'État togolais réagisse pour qu'on arrête ces personnes qui vilipendent la femme.
20% des femmes togolaises ont eu à subir des violences sexuelles, y compris l'inceste, la pédophilie et le viol. Dénoncer le viol pour obtenir justice n'est pas encore dans les habitudes, relève Michel Aguet, secrétaire général du groupe de réflexion et d'action Femmes, démocratie et développement, GF2D.
Le viol n'est pas dénoncé parce que les victimes ont souvent peur, parce qu'elles sont stigmatisées. Déjà, lorsque la première vidéo est sortie, les réactions sont mitigées. Les gens disent que c'est parce que la fille, elle a voulu avoir la vie facile, c'est parce qu'elle a provoqué, c'est parce qu'elle a fait ci. Et au-delà de cette vidéo-là, celles qui ne sont pas mises sur les réseaux sociaux, on voit des cas où on dit que c'est parce que la fille s'est mal habillée, c'est parce que la fille est de mœurs légères, c'est pourquoi elle a subi ce viol-là. Celles qui ont le courage de pouvoir dénoncer lorsqu'ils s'il s'agit par exemple d'intenter une action en justice, vous allez les voir après se rétracter. Nous avons également même des cas de viol sur des petites filles où les parents ils disent « je préfère peut-être trouver un arrangement à l'amiable que d'aller à la justice ».
Au Togo, le viol est un crime et reconnu comme tel par le code pénal. Il est puni d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
L'association française Trajectoire a publié une étude sur les enfants marocains qui errent dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Beaucoup sont originaires de Fès ou Casablanca. Il y a aussi des Algériens qui se présentent comme marocains. Certains n'ont pas plus de 10 ans. Ils consomment souvent des psychotropes tels que le cannabis ou les solvants. Ils sont exposés à de nombreux dangers car se livrant à des activités délinquantes fréquentes comme le vol à l'arraché et pouvant pratiquer des activités dangereuses telles que la prostitution, alerte l'ONG. Ils sont très carencés avec des retards de croissance, souligne par ailleurs le Centre d'action sociale protestante œuvrant pour les enfants de la rue à Paris en France.
C'est Jeunesse Pouvait.
Donner une nouvelle vie aux enfants de la rue, aux enfants défavorisés, déscolarisés, voilà l'objectif du centre Tiabala en Guinée. Situé dans la banlieue de Conakry, le centre propose des cours d'alphabétisation, de musique et place certains adolescents dans des activités professionnelles. Les célèbres ballets africains souhaitent d'ailleurs recruter des jeunes percussionnistes du centre. Notre correspondant en Guinée a passé quelques temps avec ses enfants et leurs encadreurs. Voici le reportage de Zakaria Camara.
Maman a rendez-vous à la Cité de la Solidarité. Il vient prendre les nouvelles de Mamoudou, un garçon qui a arrêté de faire la mendicité il y a de cela 3 ans. Son père, lui aussi mendiant, se souvient du jour où son fils a quitté la rue. Ils sont venus me demander de leur confier mon fils. J'ai accepté, mais avec des conditions. Je leur ai dit de ne pas apprendre la percussion à mon enfant. Ils m'ont compris et l'ont amené chez un réparateur de pneus. Nous laissons Mamoudou pour rejoindre les autres enfants du centre. Aujourd'hui, ils apprennent, entre autres, à souffler dans les flûtes. Des mélodies tirées de l'histoire de la Guinée, des techniques de coups de langue, la maîtrise des doigtés, voilà ce que propose Mamadi Mansaré.
Bon, écoutez maintenant, c'est Kizikaba qui a donné la flûte là à mon grand-père pour appeler chaque matin, pour appeler le griot.
L'ancien flûtiste des célèbres ballets africains de Guinée est heureux de s'investir pour permettre à la nouvelle génération de prendre la relève.
Je suis en train de prendre les enfants pour que je vois mon relève. Parce que je ne sais pas. Demain, je peux mourir. Là, c'est le flûte que je connais. Si je ne prends pas quelqu'un qui va me remplacer, c'est très difficile. Je n'ai pas demandé d'argent. Ce que je demande, pour faire du courage, pour apprendre la flûte.
Quinze élèves sont formés dans ce centre de réinsertion. Des enfants qui sont arrivés ici, chacun avec une histoire particulière. Fatoumata Souma vient de Fria, à 136 km de Conakry.
Mon père nous a quittés. Mais ma mère s'est mariée avec le grand-père de mon père. Tout en se battant avec le frère de mon père. Maintenant, sa sœur a décidé d'envoyer ma mère à côté d'elle, à Taouya. Ma mère aussi m'a dit qu'on va aller ensemble parce qu'il n'y avait personne qui va. Je vais rester avec. À qui je vais rester? Elle m'a dit de venir avec elle. Je suis venue. Maintenant, elle avait en train de vendre les mangues de sauce. C'est moi qui lavais les bols pour elle. C'est moi qui lavais ses habits, tout, avec mon petit frère. Le centre m'a beaucoup fait. Il m'a beaucoup fait. Parce que j'étais avec ma mère. Je ne faisais rien.
Tous ces enfants vivaient dans des situations difficiles. Malgré les moyens limités et en plus des cours, le centre assure 3 repas par jour. Véronique Lama est chargée de psychosocial.
Le recrutement au centre ici, depuis sa création, nous passons dans les différentes familles. Mais avant d'aller, on fait des enquêtes pour savoir s'il y a des enfants déscolarisés, des enfants en situation difficile, des enfants maltraités, et puis des enfants qui sont au bord de la route, et même des enfants dans les marchés.
Au début, Véronique et Momo avaient une ambition d'offrir une insertion aux enfants mendiants. Depuis quelque temps, le centre Tiabala est ouvert à tous les enfants en souffrance. Momo Silla, directeur du centre.
Au cours d'un atelier de formation avec les étudiants, on a essayé d'avoir une idée de créer une compagnie de théâtre. Alors, au cours de cette idée, on est venu rassembler des étudiants, on est venu à la maison des jeunes de Taouya, et puis on s'est mis à répéter là-bas. Après ça, comme il y avait les mendiants autour de la maison des jeunes, alors on a eu des idées de se mettre à donner, à apporter quelque chose, au niveau de ces enfants. Au fur et à mesure, on a recruté plein de professeurs grâce à la contribution de nos partenaires, là, Sylvain Lehoux, qui est aux États-Unis, qui nous aide beaucoup à apporter beaucoup de choses dans notre centre ici.
Six professeurs donnent différents cours dans ce centre qui a besoin de moyens financiers afin de faire d'anciens enfants de la rue des vedettes de demain. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
La question de l'avortement fait polémique au Burkina Faso. La pratique y est interdite, sauf en cas de viol, inceste, risque vital sur la santé de la mère et malformation du fœtus sans espoir de vie. Mais le gouvernement a annoncé vouloir modifier la loi pour permettre ce qu'il appelle des interruptions sécurisées de grossesse, afin de protéger la femme ou l'adolescente dans des circonstances difficiles. Sur cette question de société cruciale, je vous propose un reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Depuis l'annonce par le gouvernement d'une probable relecture de la loi sur les interruptions sécurisées de la grossesse, donnant un certain nombre de droits à la femme et à la jeune fille, le Conseil national des évangéliques pour la lutte contre le sida et pour la promotion de la santé n'est pas passé par quatre chemins pour marquer son indignation. Le pasteur Omar Sabadogo.
Conformément aux prescriptions des saintes écritures, dès la conception, l'individu est un être vivant. L'avortement est un crime.
Et pourtant, le gouvernement est ferme. Il ne s'agit pas de légaliser l'avortement, comme l'explique Nicolas Méda, le ministre de la Santé.
L'interruption sécurisée de la grossesse, aujourd'hui dans la loi du Burkina, est seulement autorisée quand il y a un viol, un inceste, un risque vital sur la santé de la mère, quand le fœtus à naître est tellement malformé qu'il n'y a aucun espoir de vie. En dehors de ces cas, le Burkina, vous pouvez considérer que l'avortement, l'interruption volontaire de grossesse, l'interruption sécurisée de grossesse est une infraction. C'est ça la position du gouvernement.
L'interruption volontaire de grossesse, qu'elle soit médicale ou non, n'est pas un geste anodin, selon Dr Linda Kobi, gynécologue obstétricienne. Le geste a beaucoup de complications, mais le faire en milieu sanitaire limite les dégâts. Et elle est favorable à l'interruption sécurisée.
Lorsque c'est réalisé dans un cadre légal et par des agents de santé compétents, ça limite considérablement la morbidité et ainsi que la mortalité liée aux complications de l'avortement. Le fait que ce soit des avortements sécurisés serait bénéfique pour les patientes et ce serait une option à envisager dans le futur.
Avant de parler d'interruption sécurisée de grossesse, le gouvernement devrait mettre l'accent sur les moyens de contraception, selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, gynécologue obstétricien.
Tous les jours que Dieu fait, nous sommes abordés par des personnes qui n'ont aucun problème, mais qui portent une grossesse non désirée due à un échec de la contraception, par exemple. Est-ce que si je suis enceinte, sans le vouloir ou par échec de contraception, moi je le dis toujours, échec de contraception, est-ce que je peux accéder à un avortement, oui ou non?
L'avortement est interdit au Burkina, mais sur le terrain, il se pratique clandestinement. Selon une étude réalisée par l'Institut supérieur en sciences de la population de l'Université de Ouagadougou, le taux d'avortement clandestin est de 25 pour 1000 habitants par an et 41% de ces avortements sont faits par des tradipraticiens. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Entre parenthèses. Une petite escale en République démocratique du Congo pour parler environnement. En RDC, où l'utilisation des sacs, sachets et autres emballages en plastique est interdite, avec comme objectif de préserver l'environnement et d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais cette décision de juillet 2018, qui est entrée en vigueur après un moratoire de 6 mois, souffre dans sa mise en application, tandis que le gouvernement et les industries productrices et importatrices de ce type d'emballage jouent au chat et à la souris. Sur cette question, voici un reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le décret y afférent signé par le Premier ministre s'applique difficilement sur le terrain. Le ministre de l'Industrie, qui pilote les opérations de sensibilisation et de contrôle, a rappelé que cette décision salvatrice pour l'environnement ne devrait souffrir d'aucune exception. Marcel Léou a par ailleurs annoncé à VOA Afrique le déploiement des inspecteurs des ministères de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Environnement pour s'assurer de la mise en application de cette décision.
Toute la population, les opérateurs économiques, qu'on puisse respecter ce décret. Parce que au-delà de cette date, les inspecteurs du ministère de l'Industrie, les inspecteurs du ministère du Commerce extérieur, de l'Environnement et de l'Économie feront plusieurs descentes sur terrain pour vérifier la mise en application de ce décret portant interdiction des emballages et sacs en plastique.
Le gouvernement avait exigé aux entreprises locales productrices des déchets solides, après de nombreuses mises en demeure, de se transformer en producteurs d'emballages en papier et autres emballages biodégradables pour ne pas fermer. L'environnementaliste Alain Botoko propose de son côté que l'État finance plutôt le recyclage de ces emballages en plastique.
Nous, dans la gestion environnementale, nous disons les déchets solides ou les déchets en plastique ne sont produits à Kinshasa, par exemple, qu'à 16%. Dans tout le Congo, c'est autour de 7-8%. Et le groupe de déchets qu'il faut lutter, ce sont les déchets organiques. Et là, on peut produire de l'électricité. Donc, le déchet en plastique, on peut recycler ça. L'État peut donner des moyens aux entrepreneurs, initier des actions pour que le déchet plastique soit transformé, par exemple, en bitume. Ça peut durer des années et des années.
Certains inspecteurs font déjà le tour des supermarchés de Kinshasa pour s'assurer que la mesure est respectée. Les Kinois, eux, apprécient diversement cette décision gouvernementale.
Cette décision souffre d'application sur terrain. Nous pensons que le gouvernement devra renforcer davantage les mesures d'application afin que cette mesure puisse être respectée, parce que nous continuons à voir ces emballages en sachets, en plastique, qui sont en train de détruire l'environnement, en train d'être produits et même commercialisés. Et cet usage ou cette utilisation de ces emballages ne favorise pas la propriété de la ville, ça pollue également l'environnement.
Il n'y a pas de problème qu'on refuse le sachet, mais le problème c'est que avant de pouvoir éliminer tous les sachets, il fallait déjà créer une mesure qui fera que on peut recycler les sachets en tissu carton. Ils ont débarqué et pris tous les sachets du supermarché. On nous sert les trucs à la main. Il y a la dame à côté qui achetait un truc de 80 000 francs congolais. Elle était obligée d'insister. On lui a emballé ça dans un carton. Et pourtant, elle n'a même pas, elle n'est pas véhiculée. Elle doit attraper un taxi avec toute cette charge-là. Imaginez un peu.
Normalement, les billets positifs, parce que avant cette décision-là, quand on entre dans un supermarché, on nous donnait les sachets pour emballer les histoires. Mais aujourd'hui, quand vous entrez là, ils ont trouvé une mesure de chercher des sacs, des petits sacs là, qui nous aident et qui ne met pas beaucoup de saletés. Moi, j'ai trouvé ça important. Que les ministres continuent à forcer et restent fermes.
Le gouvernement de la RDC promet d'intensifier le contrôle et d'étendre la mesure sur l'ensemble du pays. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci à Sims Loumami et Wagner Robert pour la production de cette émission. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Vous pouvez aussi consulter nos articles vidéo, interviews et les autres éditions dans la rubrique LMF sur notre site internet voaafrique.com. Cliquez sur Radio Le Monde au féminin et vous y êtes. On reste en contact. À très bientôt. Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Arrête.